Ce matin, on commence une nouvelle série. Vous n'avez pas vu de publicité passer. On a gardé ça caché. Ce matin, on commence une série dans le livre « La lettre de Jacques ». Vous pardonnerez l'anglicisme, on a intitulé la série « La tête dans les nuages, les deux pieds groundés ». Le livre de Jacques est un livre pratique. Et c'est toujours un plaisir pour moi quand j'ai l'opportunité de commencer un nouveau livre biblique. Je demeure fasciné après 18 ans de pastorat, fasciné par la parole de Dieu. Chaque fois que je plonge les regards dedans, je suis émerveillé par sa richesse, sa profondeur, la sagesse de Dieu. Et le livre de Jacques, c'est un livre qui nous porte vers l'avenir, vers le retour de Christ et en même temps qui nous oblige à sortir des salles de classe et d'aller mettre les choses en pratique, de passer de la théorie à l'application. Vous allez voir, c'est un livre très pratique. C'est un livre qui est axé sur les relations humaines. Je pense qu'on va être richement bénis par ce livre-là. On va aller ensemble dans un mot de prière avant d'écouter un premier passage. Alors, tournez avec nous si vous n'y êtes pas déjà dans Jacques, vers la fin du Nouveau Testament 1. Et ce matin, Julie va nous lire les versets 1 à 11. On va aller ensemble dans un mot de prière. Père éternel, ta parole est magnifique. Ta parole est magnifique, c'est toi qui l'as inspirée, Seigneur. Et l'œuvre que tu fais dans nos cœurs, l'œuvre que tu fais dans le cœur de celui qui s'arrête pour lire, étudier et méditer ta parole, celui qui, avec foi, demande la sagesse d'en haut. Seigneur, combien ta parole est riche. Elle est vie pour nous, Seigneur. Je te prie, Père, à travers cette étude qu'on va faire ensemble de la lettre, cette épître de Jacques, Seigneur, je te prie de venir nous transformer comme Église. Pour ta gloire, Seigneur, pour notre bonheur, pour le bonheur des gens autour de nous, nous voulons te ressembler, Jésus. Nous voulons que les gens autour de nous, à notre rencontre, soient bénis. Simplement parce qu'ils te rencontrent, toi, dans nos attitudes, dans nos paroles, dans nos comportements, que ce soit nos proches, la famille, que ce soit la famille de Dieu ici, l'Église, que ce soit nos voisins, les collègues de travail, les amis. Nous voulons, Seigneur, qu'ils te découvrent à travers ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous disons, Seigneur. Et je te prie de venir nous transformer davantage, nous rapprocher, Seigneur, de cette maturité, de cette perfection dont Jacques parle, Seigneur. Viens et ce matin, par ton esprit, viens appliquer dans nos cœurs et dans nos vies ta sainte parole. C'est en Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. On va écouter ensemble la parole de Dieu.
Alors, le passage biblique de ce matin est tiré du livre de Jacques, au chapitre 1, versets 1 à 11, édition Louis II. Jacques, au chapitre 1, versets 1 à 11. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises.
Merci, Julie. Comme je le mentionnais, la lettre de Jacques, c'est une lettre pratique. Avec Jacques, tu ne peux pas rester dans la théorie, tu ne peux pas rester dans les grandes réflexions, les discussions très, très longues de théologie qui mènent peut-être juste à, à s'enfler d'orgueil parce que je sais les choses mieux que toi ou tout ça. C'est des choses qui irritent Jacques. Il ne trouve pas ça très, très comique parce que pour lui, ce n'est pas à ça que ça sert la foi. Donc, c'est pas de la théorie, c'est de la pratique, c'est concret. Jacques aussi, c'est communautaire. Comme je l'ai dit, c'est les relations. Et je suis content qu'on ait dans ce livre-là pour grandir ensemble comme famille et incarner davantage, vivre davantage ces valeurs-là que l'Évangile nous enseigne. On est là pour les uns pour les autres lorsqu'on étudie Jacques. Jacques, c'est le cœur qui est gardé pur. Retenez ça, d'accord? Trois organes. Jacques, c'est le cœur qui est gardé pur, c'est la langue qui sert à construire les autres et ce sont les mains qui servent les autres, surtout les plus démunis. Gardez ces trois organes-là en tête, ces trois images-là, donc le cœur qui est gardé pur, la langue qui sert à construire les gens autour de nous et les mains qui sont là pour servir spécialement les gens qui sont dans le besoin autour de nous. Gardez ça à l'esprit, vous allez voir, ça va revenir constamment à l'intérieur de cette lettre de Jacques. Avec Jacques, t'es à la fois la tête dans les nuages parce que t'es en train toujours de regarder à Jésus-Christ. Tu veux devenir comme lui. Jacques commence sa lettre en disant « Jacques, serviteur de Dieu et de Jésus-Christ ». Et donc, il a les yeux fixés sur ce jour où Christ vient nous chercher et on entre dans sa présence. Donc, t'as la tête dans les nuages, mais en même temps, t'as toujours les deux pieds sur terre. Parce que pour lui, toute la théologie du monde, ça ne vaut rien si ça ne te transforme pas comme personne dans le quotidien. Puis dans un autre sens, tu n'as pas la tête dans les nuages, justement parce que c'est pas de la théorie pour lui tout ça. C'est très, très réel et ça doit demeurer réel. Certaines personnes ont lu la lettre de Jacques, même Martin Luther. À ne pas confondre avec Martin Luther King, s'il vous plaît, allez sur Wikipédia un petit peu. Martin Luther, le grand réformateur, l'appelait l'épître de paille, parce qu'il ne comprenait pas où se trouvait l'Évangile à l'intérieur de la lettre de Jacques. Sans prétention, ce n'est pas moi qui vais apporter des lumières là-dessus, mais disons que les théologiens, à travers l'histoire, ont vu l'erreur dans l'approche de Luther, qui est en train de sortir de toute cette théologie du salut par les œuvres qui était enseignée à l'époque dans l'Église catholique de manière très, très claire. Donc, avec Jacques, tu passes à la pratique. C'est très concret. Ça s'adresse à tout le monde. Ce matin, on va voir ensemble que ce livre va nous conduire hors des salles de classe, là où la vraie foi se vit dans la vraie vie, pour faire de nous des hommes et des femmes matures en Jésus-Christ. Commençons par l'introduction. J'espère que vous avez vos textes, vous avez vos Bibles avec vous, vous êtes capables de me suivre dans le texte. Jacques 1:1, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Ça commence mal, j'aurais même pas la prétention de tout clarifier ce verset-là pour vous, d'accord? Jacques, qui est ce Jacques-là pour commencer? Parce que il croit qu'il est assez connu pour avoir simplement à dire Jacques. Vous savez de qui je parle, c'est Jacques, tu sais? Bon, Yannick, ça peut peut-être aller ici, mais en dehors d'ici, il faudrait que j'ajoute un peu. T'sais. Yannick Étier, qui habite à Longueuil, qui sort dans telle église. Jacques, puis tout le monde sait c'est qui Jacques. Alors, de qui on parle? Essentiellement, il y a trois Jacques qu'on voit dans le Nouveau Testament, deux en particulier. Il y avait deux Jacques qui étaient apôtres, un qui était très connu, un qui est moins connu, et puis il y a Jacques, le frère du Seigneur. Parce que Jésus est né dans une famille, il y avait des frères et sœurs, et un Jacques qui nous est présenté très tôt comme un frère du Seigneur. Or, Jacques l'apôtre est décédé martyr très tôt dans l'histoire de l'Église. Vous irez relire peut-être le début du livre des Actes. Donc, Jacques, l'apôtre le plus connu, est décédé à ce moment-là. Et puis, Jacques, le frère du Seigneur, est devenu en quelque sorte, assez rapidement, le chef de l'Église à Jérusalem. On voit que c'est un personnage d'influence au Concile de Jérusalem. Donc, le plus probable... D'accord, mais on ne peut pas l'affirmer de manière absolue. Le plus probable, c'est ce qu'en général l'histoire nous communique, les théologiens à travers l'histoire depuis 2000 ans, généralement reconnaissent dans ce Jacques-là le frère du Seigneur. Parce que si ça avait été l'autre, bien il aurait écrit son livre très, très tôt, ce qui est peu probable. Et puis le troisième, bien, était moins connu. Il aurait peut-être fallu qu'il se présente davantage. Alors l'histoire, l'Église reconnaît dans ce Jacques-là le frère du Seigneur. C'est ça le plus probable. On ne peut pas être définitif. Maintenant, c'est intéressant de le savoir parce que ça change quand même ma lecture de ça ici. D'accord? Si effectivement, c'est le frère de Jésus, Ça veut dire qu'il est né dans la même maison que lui. Ça veut dire qu'il a vu Jésus grandir en sagesse, apprendre des choses. C'était son grand frère. Si c'est lui, c'était son grand frère. Et voici comment il se présente. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Hier, on était en train de jaser avec Bastien du livre de Jacques. Puis Bastien, à un moment donné, nous a arrêtés. Je n'ai même pas demandé la permission pour dire ça, excuse-moi. Il dit, ouais, il dit, c'est vrai que ce serait bizarre si à un moment donné, je réalisais que ma sœur, c'était comme la fille de Dieu. Tu sais. Alors, imaginez ça, vous avez des frères et sœurs peut-être. Imaginez que vous vivez avec eux pendant toute votre enfance, tout va bien. Tu sais, t'as appris à lui donner des bines, à chicaner. Alors, je sais pas si avec Jésus, tu peux vraiment te chicaner, mais tu sais, tu peux être méchant avec lui, peut-être qu'il était toujours gentil. Hein? Là, tu réalises, des années plus tard, après avoir douté de lui lorsqu'il a commencé à enseigner, sa famille doutait de lui, c'est clair. Mais plus tard, tu crois en lui, puis tu reconnais que c'est lui le Seigneur Jésus, c'est lui le Messie qui devait venir, c'est lui le Christ. Le Messie, loin, celui qui a été choisi de l'Éternel. Et t'en viens à parler de lui, non pas comme ton frère, mais comme ton Seigneur. Vraiment intéressant, hein? Ça change la perspective. Et ça nous aide à voir comment, à l'époque, l'Église voyait Jésus. Si effectivement c'est le frère du Seigneur qui est ici, c'est très, très, très probable. Mais il tenait Jésus en très haute estime pour l'appeler son Seigneur. Je fais une petite parenthèse, puis je vais en faire souvent à l'intérieur du livre de Jacques. L'auteur du livre de Jacques qui est quelqu'un qui maîtrise bien sa langue. Et donc, il fait toutes sortes de jeux de mots, des fois, qui ne paraissent pas toujours en français, puis qui nous laissent avec des points d'interrogation lorsqu'on veut interpréter le texte. Mais c'est clair qu'il sait qu'il est en train de faire ça lorsqu'il le fait. Puis dans le passage ici, en grec, on pourrait traduire ça autrement, d'accord? Le verset 1. Vraiment, on pourrait le traduire comme ça. Jacques, serviteur de Jésus-Christ, Dieu et Seigneur. Vous me suivez? Pas en tout. Regardez avec moi le verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, ça aurait pu être traduit sans faire aucune faute de grec. Jacques, serviteur de Jésus, le Christ, de Jésus-Christ, Dieu et Seigneur. Les deux sont possibles, puis il le sait. Probablement qu'on le rend mieux comme ça, mais il savait qu'il était en train de laisser cette ambiguïté-là. C'est rare dans le Nouveau Testament que la divinité de Christ est déclarée de manière super claire. À plusieurs reprises, ça l'est, mais ce n'est pas super constant, ce n'est pas super fréquent, et donc c'est pour ça que les traducteurs ont tendance à traduire comme ça. En général, c'est traduit comme ça. Mais l'auteur sait très bien qu'il est en train de semer une ambiguïté dans le texte, puis il est en train de dire, c'est peut-être plus même que mon Seigneur, c'est peut-être mon Dieu aussi. Et lorsqu'on pense que c'est probablement le frère du Seigneur, tu dis, wow, quelle humilité de sa part. Gardez ça à l'esprit parce que tout à l'heure, on va y revenir. Là où c'est plus délicat, c'est cette question-là, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. De qui il est en train de parler? Est-ce que Jacques aurait écrit sa lettre juste pour des Juifs? Et certains commentateurs vont croire ça. C'est pas ce que j'ai tendance à croire, d'accord? Donc, certains vont dire, il y a de la même manière, par exemple, que Paul a été l'apôtre des païens, des non-juifs. D'autres, certains des apôtres, se sont plus dédiés à s'occuper des juifs qui devenaient chrétiens. J'ai pas l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est une allusion un peu comme dans Pierre, lorsqu'il parle à ceux qui sont dans la dispersion. J'ai l'impression un peu comme Paul qui parle de l'Église en disant que nous sommes l'Israël de Dieu, les héritiers d'Abraham. Et donc, j'ai l'impression qu'il est tout simplement en train de s'adresser à l'Église en utilisant cette image-là, d'accord? L'Église qui a 12 apôtres et tout ça. Ça, c'est mon impression, mais j'en ferai pas un cheval de bataille. Si ça vous tente, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi là-dessus. Pas de problème. Je pense que ça reste quelque chose qui est un petit peu ambigu dans le texte. Mais allons tout de suite vers le passage pour voir à quel point ce texte-là est concret et pratique dans nos vies. De la théorie à la pratique. Je vous dis quelque chose d'autre par rapport à Jacques. Vous allez avoir l'impression, c'est intéressant, on vient de finir le Cantique des Cantiques. Vous savez, dans le Cantique des Cantiques, je l'ai présenté comme une anthologie de poèmes, un recueil de poèmes. Puis des fois, c'est un petit peu difficile de voir le fil conducteur à travers le Cantique des Cantiques. C'est un petit peu la même chose avec Jacques. Bien que je crois qu'il y en a un fil conducteur, puis je vais travailler fort pour nous aider tout le monde à voir ce fil conducteur-là à travers toute l'épître, d'accord? Mais dans une première lecture de Jacques, des fois, on a l'impression qu'il passe d'un sujet à l'autre constamment. Soyez pas surpris si vous avez ce sentiment-là, cette impression-là. C'est normal, d'accord? Vous lisez puis vous dites, boy, OK, il dit plein de belles choses, mais c'est pas l'apôtre Paul. Ou c'est pas un livre historique où tu as toute l'histoire puis tu passes d'une étape à l'autre. Paul, tu lis Paul, des fois tu dis, il est bien compliqué dans ce qu'il dit, mais je sais que ça se tient. Il est toujours ainsi, donc, car, oui. Il est toujours en train de bâtir une proposition sur une autre. Jacques, tu as l'impression qu'il s'en va un peu partout. Donc, je veux juste vous donner un petit peu la structure du passage qu'on voit ce matin. C'est super important pour aller tirer vraiment les perles extraordinaires qu'il y a pour nos vies dans ça. Dans un premier temps, ce que Jacques fait ici dans les versets 2, 3, 4, en fait, 2, 3 et 4, oui, c'est ça, il va adresser un sujet énorme dans nos vies, les épreuves. Nos vies sont remplies d'épreuves. Et donc, ce qu'il fait dans un premier temps, c'est qu'il va dire, voici comment un chrétien devrait regarder toutes les épreuves qui viennent dans nos vies. On va y venir. Il dit, voici la manière sage de voir les épreuves. Ensuite de ça, il dit, maintenant, si quelques-uns d'entre nous manquent de sagesse pour bien comprendre les épreuves dans leur vie, il y a juste à la demander à Dieu, cette sagesse-là. Et Dieu va lui donner de la sagesse pour savoir comment interpréter, comment comprendre, comment vivre, comment traverser les épreuves dans nos vies. Et enfin, ce qu'il fait à la toute fin, qui a l'air de ne pas avoir rapport pantoute avec le pauvre et le riche, il nous donne deux exemples concrets. Comment vivre et traverser les épreuves de nos vies. D'accord? Donc, premièrement, il parle des épreuves, comment on doit les regarder. Deuxièmement, il nous dit, si tu n'arrives pas à le faire, tu n'arrives pas à voir les épreuves dans ta vie comme Dieu veut que tu les vois, demande-le à Dieu. Il va te donner cette sagesse-là. Puis en dernier, il va nous donner deux exemples concrets, comment on traverse les épreuves en les regardant comme Dieu veut qu'on les regarde. Donc, c'est assez concret pour nos vies. Parce que tout le monde traverse des épreuves. Jacques va jusqu'à parler de la grande diversité d'épreuves. Il dit « considérer comme une joie complète les diverses épreuves ». Chacun d'entre nous ici ce matin, on est en train de traverser des épreuves. Ça peut être sur le plan matériel, ça peut être sur le plan de la santé, ça peut être sur le plan des relations, ça peut être sur le plan familial, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être tout bonnement très, très intérieur où j'arrive pas à me comprendre moi-même, je suis pas bien avec moi-même, je suis pas bien dans ma peau. Je ne suis pas heureux. Je n'arrive pas à trouver un sens dans ma vie. Je n'arrive pas à trouver un bonheur. Je suis toujours moody. Je suis toujours déprimé. Ou j'ai un sale caractère de colérique, comme Yannick Étier. On traverse tous différentes épreuves. Et donc, Jacques, dès le début de son épître, est en train de nous dire, vous allez en traverser tellement d'épreuves, c'est incroyable. Allez pas croire que la vie chrétienne, c'est une vie où il n'y a plus d'épreuves. En fait, Jacques, dans une phrase qui a l'air un peu folle, honnêtement, nous dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accompli sans faillir en rien. » Jacques est en train de nous dire que les épreuves qui sont données dans notre vie sont d'abord des épreuves de notre foi. Regardez le passage encore avec moi. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Jacques dit, tout ce qui vous fatigue dans vos vies, tout ce qui vous tombe sur les nerfs, tout ce qui vous irrite, tout ce qui semble être des obstacles, des contradictions, des contrariétés dans vos vies, en réalité, toutes ces choses-là, aussi diversifiées soient-elles, sont des tests pour votre foi. La Bible a ce fâcheux défaut de toujours ramener les choses à Dieu. Tout le temps. Puis Jacques nous dit, vous traversez une grande diversité d'épreuves. Mais chacune de ces épreuves-là sont des tests de votre foi. Et notre attitude, notre réaction dans les épreuves, avant même de parler de quoi que ce soit d'autre, ça parle de notre relation avec Dieu. Ça parle de notre vision de Dieu. Parce que c'est une épreuve de notre foi. Alors je ne sais pas quand tu penses à ce qui t'irrite le plus dans ta vie actuellement, ce qui te contrarie le plus, ce qui te fatigue le plus. Tu as peut-être des noms qui te viennent en tête. Jean dit, c'est des épreuves pour ta foi qui te sont données. Ce sont des épreuves de la foi qui te sont apportées. C'est à ça qu'elles servent. Et elles sont totalement diversifiées, ces épreuves-là. Elles prennent toutes sortes de formes. On passe beaucoup d'énergie dans nos vies à essayer d'éliminer les épreuves. Est-ce que c'est vrai? Je veux dire, la première chose qui nous vient à l'esprit lorsqu'on dit merci au Seigneur, c'est « Merci Seigneur, parce que ce qui me fatiguait est parti. » J'ai une épreuve dans ma vie, ce que je prie, mon premier réflexe, c'est quoi? Après, pourquoi? C'est « OK, quand est-ce que ça s'en va? » Non? On passe énormément d'énergie à prier, à chercher les moyens de sortir des épreuves. C'est légitime, c'est correct. C'est correct. Le christianisme, ce n'est pas une religion, une foi de masochiste. Ce n'est pas ça l'idée. Mais nous croyons dans la providence divine. Nous croyons que Dieu est souverain. Et ce que Jacques est en train de nous dire ici, c'est que les épreuves dans nos vies, bien sûr, nous pouvons prier pour qu'elles s'en aillent. Bien sûr, on peut trouver le moyen, le chemin pour se sortir de cette souffrance-là. C'est légitime, c'est bien de le faire. Mais avant même d'entreprendre cette aventure-là, Jacques dit, apprenez à les regarder comme une source de joie complète. Le secret du malheur pour un chrétien, c'est de ne jamais apprendre à se réjouir lorsque des épreuves surviennent dans sa vie. C'est le meilleur moyen pour rester immature toute votre vie dans la foi. Avouez que c'est quand même un gros stretch, c'est quand même un gros saut, là. La première chose, c'est qu'on essaie de ne pas chialer dans les épreuves. On essaie de se tourner vers Dieu dans les épreuves. On essaie de se confier en lui dans les épreuves. Genre qui dit non, c'est pas assez. C'est pas ça la maturité. La maturité, c'est d'avoir la joie de savoir que ça sert à quelque chose. Mon gars et moi, on s'entraîne beaucoup physiquement. Très tôt, lorsque j'étais jeune, j'ai appris à me réjouir quand le lendemain d'un gros entraînement, j'étais raqué. Ça veut peut-être dire que j'étais allé trop loin. Ça veut peut-être dire qu'il faut que j'attende avant de me réentraîner. Mais ça veut peut-être dire que je suis maso. Non. Moi, j'arrive, les gens au bureau, ils savent. Des fois, je rentre et je dis « Ah, oh, j'ai mal. » Puis ils disent « Ouais, puis t'aimes ça. Hein? »« Ah oh, oui, j'aime ça. » Parce que je sais que je suis sur le bon chemin. C'est ça que Jacques nous dit ici. Regardez dans le texte qu'est-ce qu'il nous dit. « Sachant, puis en fait, ça aurait pu être traduit, « Car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre en vous afin que vous soyez parfaits, matures. C'est vraiment ça le sens du terme ici. Afin que vous soyez matures et accomplis sans faillir en rien. Et là, on a des passages où Jésus nous dit, qui nous reviennent à l'esprit, où Jésus nous dit, soyez donc matures, parfaits comme votre Père céleste est mature et parfait. Et donc, ce que Jacques nous dit, c'est que Dieu ne gaspille pas les épreuves dans nos vies, il les envoie pour nous conduire à maturité. Alors si lorsque l'épreuve vient dans ma vie, il y a de la souffrance qui vient dans ma vie, si bien sûr j'ai le droit de prier et de dire « Seigneur, montre-moi comment sortir de là, tableau. » C'est pas agréable, aïe aïe! C'est correct. Mais je dois rapidement apprendre à grandir en maturité et à dire « Qu'est-ce que tu veux changer en moi, Seigneur, à travers ça? » Parce que mon but sur la terre, c'est de devenir comme Jésus-Christ. C'est ça mon but. Je suis là pour être transformé à l'image de Christ. Ça fait mal, c'est clair que tu es en train de toucher quelque chose là. OK, on s'en va là. Et j'apprends à travers ça, quand les épreuves viennent, à les considérer comme un sujet de joie. Pas que je prends un plaisir dans la souffrance. Quand je m'entraîne, puis le lendemain, ça fait mal. C'est pas comme « Oh, oh, c'est bon. » C'est pas ça, l'idée. C'est que je sais c'est quoi mon objectif. Je sais que je suis dans la bonne direction. J'ai appris donc à me réjouir de ça parce que j'ai en vue l'objectif. Le secret du malheur, c'est de ne jamais apprendre comme chrétien à voir les épreuves de vos vies comme ça. Vous allez être des chrétiens malheureux toute votre vie et vous allez demeurer des enfants dans la foi, au petit lait. C'est ça qui va se passer. Parce qu'à chaque fois, vous allez être là misérable, puis vous allez dire, « Oh, je ne sais pas dans le fond si Dieu est bon avec moi parce qu'il a permis ça dans ma vie. » Je comprends, c'est légitime, c'est humain. Mais plus je grandis en maturité, plus j'enseigne à mes enfants. Vous savez quoi, les enfants? Devenir mature, c'est apprendre à faire ce qui est désagréable maintenant parce que je veux produire quelque chose plus tard. C'est apprendre à faire maintenant ce que ça ne me tente pas de faire maintenant parce que je veux construire quelque chose pour l'avenir. C'est apprendre à ne pas vivre dans l'immédiat, mais pour ce que je veux devenir. C'est ça, devenir mature, non? C'est ça qu'on essaie d'enseigner à nos enfants. C'est ce que notre Père essaie d'enseigner à ses enfants. C'est ça qu'il essaie de nous enseigner. Et Jacques nous dit, regardez, apprenez à regarder comme une source de joie complète la grande diversité d'épreuves qui vont venir dans vos vies. Certains vont vous parler d'une foi, d'un christianisme où tout va aller bien, une espèce d'évangile de la prospérité. Vous allez chercher des recettes, vous allez chez Renaud Bré, vous allez dans les librairies, vous allez à la bibliothèque, vous chercher des livres qui vont vous rendre la vie facile. Jacques dit, ben, quand tu seras parfait, la vie sera facile. Mais jusque-là, ça va être difficile. Parce que l'agenda de Dieu, c'est de former Christ en toi. Et donc, Jacques dit, une autre épreuve, une autre occasion de grandir. C'est pas un motto, c'est pas une pensée positive, c'est pas un spin qu'on se donne pour voir la vie du bon côté. C'est pas ça. C'est une aspiration profonde à devenir comme Christ, à être transformé à son image. C'est pas toujours naturel, ça. C'est pas toujours simple, ça. Et des fois, on est là, puis on lutte avec l'épreuve, puis on dit, « Seigneur, je sais que tu veux mon bien, mais un, je n'arrive pas à l'accepter, cette épreuve-là. Deux, je n'arrive pas du tout à voir le bien que tu vas en sortir. J'ai juste le goût de me fâcher, j'ai juste le goût de me rebeller, j'ai juste le goût de m'éloigner de toi, j'ai juste le goût de douter de ton amour pour moi à travers ça. Je réfléchis comme un insensé. Je réfléchis comme quelqu'un qui dit, Dieu qui a donné son Fils pour moi, peut-être même pas tant que ça. Et on est tous en train d'apprendre, ça nous arrive à tout le monde. Et donc, certains d'entre vous, ce matin, vous écoutez tout ça, puis là, vous dites, écoute Yannick, moi je suis dedans, j'ai eu le bon réflexe, je me suis réjoui de mon épreuve, ça va bien. D'autres vous dites, c'est facile à dire, bonhomme, essaie de venir prendre ma place 2 secondes. Donc, ça ne va pas de soi pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'après, Jacques continue en disant, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Ceux d'entre vous qui avaient une version de la Bible dite à la colombe, je vous ai dit que Jacques écrivait bien son grec, puis il fait des jeux qui n'apparaissent pas dans toutes les traductions. La fin du passage précédent, d'accord, juste en haut au verset 4, se termine en disant jusqu'à ce que la patience s'accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Mais voici comment c'est dit dans la colombe, si vous avez une colombe. Mais il faut que la patience accomplisse son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque de rien. Puis il commence au verset 5 en disant, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse. » Voyez-vous? Ah, c'est là le lien, le fil conducteur qui apparaît ici. Il dit, Dieu envoie des épreuves dans vos vies, on doit apprendre à le regarder comme une source de joie parce qu'il est en train de nous transformer à l'image de Christ. Et une fois que je vais être mature, il ne me manquera de rien. Je pense à Éphésiens 4, on sera des hommes fermes, accomplis. Nous ne serons plus emportés à tout vent de doctrine, mais on va être matures en Jésus-Christ. On va être complet, il ne nous manquera de rien. Mais si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, si quelqu'un d'entre vous, à travers son épreuve, n'arrive pas à trouver la sagesse de Dieu pour savoir comment voir son épreuve, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous sans reproche. Et là, Jacques nous rappelle simplement qui est Dieu. Dieu est bon, Dieu est généreux. Vous respirez tous ici? Il n'y a personne qui ne respire pas. Levez la main si vous ne respirez pas. Dieu vous a donné de l'oxygène. Et qui est bon. Ce matin, vous êtes levé, puis il l'a fait sans reproche. Hein? Il ne s'est pas promené sur la terre en disant, « Annie, non, pas ce matin. Oh, c'est bon, on va y en donner ce matin un peu d'oxygène. » Dieu donne à tous sans reproche, aux méchants, aux bons, à tout le monde, il donne. Sans reproche. C'est dans sa nature, Dieu est bon. Alors si Dieu envoie des épreuves dans nos vies, puis je n'arrive pas à comprendre l'épreuve, je n'arrive pas à me réjouir, je n'arrive pas à voir l'œuvre que Dieu veut faire dans ma vie, il dit, demande-la à Dieu. Il va le faire sans reproche. Il voit ta faiblesse. Il ne vient pas à toi en disant, ben là, écoute, ça fait 10 ans que tu es chrétien, bonhomme, il me semble que tu devrais la catcher. Fait que non, débrouille-toi. Alors, retourne lire ta Bible. C'est pas ça qu'il fait. Sans reproche. Il connaît notre faiblesse, il connaît notre fragilité. Il vient nous rejoindre là. Et il nous donne sa sagesse pour traverser l'épreuve, pour voir l'épreuve comme il veut que nous la voyons, afin que nous grandissions à travers ça. Maintenant, c'est intéressant, il dit qu'il le demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. C'est vrai toujours dans la prière, mais dans ce contexte-là, je pense que Jacques est en train de dire, demande-la en demandant à Dieu vraiment de te montrer comment tu dois voir l'épreuve. Souvent, on est dans l'épreuve, puis je ne suis pas sûr qu'on veut faire cette prière-là. Je vous l'ai dit tantôt, notre première prière lorsqu'une épreuve survient dans nos vies, c'est quoi? Bon, ça fait très mal, c'est « Pourquoi? » Puis la deuxième, c'est « OK, fais-la partir! » Est-ce que tu veux la sagesse de Dieu? Est-ce que tu es prêt à aller avec foi dans la prière et dire, « Seigneur, viens me montrer la bénédiction qu'il y a dans cette épreuve-là dans ma vie. » Es-tu prêt à faire cette prière-là avec foi? Autrement, tu vas demeurer un enfant dans la foi. Tu vas vaciller toute ta vie. Mais quand l'épreuve survient, est-ce que tu es prêt à aller dans la prière? Aller voir ton Père et dire, « Père, je sais que tu m'aimes. Christ est mort pour moi sur la croix. J'ai aucune raison de douter de ton amour. Je sais que tu es tout puissant, tu as ressuscité mon sauveur d'entre les morts. J'ai aucune raison de douter de ta puissance. Mais là, pour moi, ça ne fait aucun sens, cette histoire-là. Est-ce que tu es prêt à aller dans la prière et dire, Seigneur, enseigne-moi. Enseigne-moi ta sagesse. Je veux comprendre, je veux grandir, je veux être transformé. Je veux regarder cette épreuve-là comme un sujet de joie complète. Et Jacques décide de terminer cette première partie, ce premier passage, en nous donnant deux exemples concrets, très concrets. C'est même étrange, je vais juste le relire. Tu as l'impression que ça vient de nulle part, mais regardez bien la sagesse de Dieu. Il dit que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Car il passera comme la fleur de l'air. La première fois que tu lis ça, tu dis, d'où c'est que ça sort? Ça vient d'où, cette affaire-là? Maintenant, une fois qu'on le place dans ce contexte-là, de quoi il peut vouloir parler lorsqu'il dit, OK, on va parler de sagesse maintenant à travers l'épreuve. Que le pauvre, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. De quoi il peut vouloir parler ici? Parce que selon la sagesse du monde, si tu es pauvre, il n'y a rien d'élevé dans ça. Mais moi, lorsque je lisais ça, le passage qui m'est revenu à l'esprit, c'est quoi? Sermon sur la montagne. Jésus a dit dans Matthieu, même plus tard aussi dans Matthieu 19, il dit, « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et donc, Jacques est en train de dire, « OK, tu es pauvre, tu es de condition humble. Apprends à regarder ton épreuve avec le regard de Dieu. Qu'est-ce que tu as hérité en venant à Jésus-Christ? Tu es devenu riche. Tu es devenu très riche en Jésus-Christ. Et le monde peut te dire que ton identité est liée à ta pauvreté ou à ta richesse. C'est un mensonge insensé. Ta valeur n'est pas définie par ça. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un co-héritier avec Christ. Jésus t'appelle son frère. Des richesses insondables t'attendent. Détrompe-toi de penser que ta valeur est définie par ta richesse. Glorifie-toi plutôt de ton élévation. Là, il arrive et il dit aux riches, il dit, toi, riche, toi qui te définis par ta richesse, toi qui te définis par ta condition, toi qui te pavane puis qui dis, je suis riche, j'ai besoin de rien, certainement pas de Dieu. Quand tu découvres Jésus-Christ, c'est humiliant. C'est humiliant parce que tu réalises que tout ce mensonge-là que la société te reflétait en disant, waouh, ouais, t'es quelqu'un, hein, t'as de l'argent. Tu réalises bien souvent que cet argent-là était peut-être le plus gros obstacle pour que tu connaisses Jésus-Christ. Parce que tu te confortais dans ta richesse, comme on le voit en Occident actuellement. Tu t'appuyais là-dessus, puis ça t'empêchait de venir à Dieu. Tu réalises, dans le fond, que tu définissais ta valeur par quelque chose, comme dit Jacques, qui est extrêmement éphémère, qui va passer très, très vite. Très, très vite. Et donc, il y a quelque chose d'humiliant dans ça. De réaliser que ta valeur n'est pas dans tes richesses, mais elle est en Dieu. Et vous savez quoi? Ça se vivait dans l'Église à l'époque. On est dans l'Empire romain. Une réalité de l'époque, une réalité culturelle, c'est que lorsque les Romains faisaient la conquête de certains territoires, ils arrivaient, puis souvent ils envahissaient des pays où le peuple était plus instruit, était plus cultivé, spécialement dans les contrées grecques. D'accord? Et donc, il arrivait régulièrement, on le voit dans les épîtres pastorales, 1 Timothée, 2 Timothée, etc. Tout ça, on voit cette réalité-là dans l'épître à Philémon aussi apparaître. Il arrivait qu'un esclave se convertissait, puis son maître se convertissait. Mais l'esclave, c'était le comptable de la maison. C'est lui qui enseignait, c'est lui qui était le tuteur des enfants pour les enseigner. Quand les deux se convertissent, puis ils commencent à étudier la Bible, c'est qui s'en va enseigner en avant? C'est l'esclave. Fait qu'à la maison, je suis ton esclave, mais à l'église, je suis ton pasteur. Intéressant, hein? Que le riche se glorifie de son humiliation. Ta valeur n'est pas dans tes richesses, mon ami. Ta valeur est en Jésus-Christ. Sois fier de ce que tu es en Jésus-Christ. Et Jacques lui-même nous donne un super bel exemple de ça au verset 1. Il commence sa lettre en disant, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. On a ici l'ironie, le paradoxe de l'Évangile. Le mot serviteur qu'on a ici, il est mis là juste pour ne pas trop écorcher vos oreilles sensibles d'occidentaux, modernes. Bonne traduction, ça serait esclave, d'accord? Ça serait une meilleure traduction, parce qu'on ne parle pas ici d'un serviteur syndiqué, avec des conditions de travail, puis ses journées de congé. Des fois, c'était des citoyens libres, avec très peu de droits, des fois, souvent, ce n'étaient pas des citoyens libres. Et donc, Jacques est en train de dire ici, Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Jacques, probablement le frère de Jésus. Esclave de mon frère naturel, qui est en réalité mon Seigneur et mon Dieu. Et voyez-vous, c'est ça l'ironie, le paradoxe de l'Évangile, c'est que tout ce dans quoi on se confiait pour déterminer notre valeur, lorsque je découvre l'Évangile, tout ça ne fait plus de sens. Ce qui définit ma valeur, c'est que j'ai reconnu que j'étais un pécheur et que par moi-même, je n'avais pas de valeur. Et c'est seulement Christ qui me donne le pardon, ma valeur, ma nouvelle identité en Jésus-Christ. Et donc, le chrétien est fier d'être un serviteur. Le chrétien s'en va servir ses frères comme un serviteur. Il est fier. Voyez-vous la sagesse de Dieu? Voyez-vous comment la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse du monde? On est là, nous autres, on idolâtre des stars, on suit des vedettes, on carbure aux célébrités. Et la sagesse de l'Évangile dit non, ça ne veut rien dire ça. Ça ne veut rien dire si tu n'as pas appris à craindre Dieu, à aimer Dieu, à servir Dieu. Tu es un fou. Et aux yeux du monde, la sagesse de Dieu est folie. Jacques dit, mes frères et sœurs, apprenez à regarder la grande diversité d'épreuves dans vos vies comme une source de joie complète. Parce que Dieu, qui est souverain, qui est bon, qui vous aime, les envoie, les permet dans vos vies pour vous transformer à l'image de Christ. Et même si je souffre à travers l'épreuve, puis j'apprends à demander à Dieu de me libérer de l'épreuve, en même temps, j'apprends à me réjouir pour la transformation que ça produit en moi. J'apprends à grandir dans ma patience à travers les grands nombres d'épreuves diversifiées qui viennent dans ma vie. J'apprends à grandir dans ma patience de plus en plus, à lire dans ces épreuves-là des outils de Dieu pour me transformer, pour me façonner et que je devienne de plus en plus mature en Jésus-Christ. Et Jacques nous dit, si l'épreuve que tu traverses actuellement, tu n'arrives pas à faire cette lecture-là. C'est trop fou, c'est trop douloureux, c'est trop grand. Tu n'arrives pas à trouver cette sagesse de Dieu. Va dans la prière. Examine ton cœur, par exemple, avant de prier. Est-ce que tu es prêt à prier avec foi en demandant à Dieu, viens m'enseigner, viens m'instruire. Je veux voir cette épreuve-là avec ta sagesse à toi. Je suis prêt pour ça, Seigneur. Je vais prier encore pour qu'elle parte, cette épreuve. Mais en même temps, je vais l'accepter au fur et à mesure qu'elle est là, puis je vais voir ton œuvre bonne à travers cette épreuve-là. Puis Jacques nous donne deux exemples super concrets où on voit que la sagesse du monde n'est pas la sagesse de Dieu et la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse du monde. On va passer un temps de louange ensemble, mais laissez-moi vous rappeler l'Évangile un instant. Parce que dans l'Évangile de Jésus-Christ, on voit cette sagesse de Dieu qui est folie pour les hommes. La sagesse de Dieu, c'est qu'un Dieu parfait a décidé de donner son Fils pour des pécheurs. La sagesse de Dieu, c'est qu'un Fils de Dieu parfait, qui jouissait parfaitement de la communion avec son Père dans l'éternité, a jugé bon de s'humilier en naissant dans une étable pour venir vivre parmi des hommes qui ne reconnaîtraient pas en lui vraiment le Fils de Dieu. C'est de la folie pour les hommes. D'une part, les gens l'écoutaient, le trouvaient infiniment sage. Après ça, ils continuaient à l'écouter, ils le méprisaient. Pourtant, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est folie pour les hommes. Parce que la sagesse de Dieu, c'est que ce sauveur parfait-là a décidé de voir cette épreuve qui lui était demandée de vivre comme quelque chose de bon. Être méprisé par les pécheurs, être livré aux soldats romains, être crucifié sur cette croix. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Et Christ a vu là-dedans quelque chose de bon. Il a accepté de voir l'épreuve à laquelle il était soumis comme quelque chose de bon pour le salut de mon âme et de ton âme. C'est de la folie aux yeux du monde. Les gens se moquent de l'Évangile lorsqu'on leur prêche l'Évangile. C'est trop simple, c'est trop facile. J'ai juste à me confier en lui pour être pardonné de mes péchés. J'ai juste à le suivre et accepter son sacrifice. C'est de la folie pour le monde. Pourtant, c'est la sagesse de Dieu. Par exemple, je ne sais pas quelles épreuves vous traversez, Jacques ne vous lâchera pas. Jacques ne vous lâchera pas. Il va chercher à nous conduire dans cette sagesse extraordinaire, tellement simple et concrète, à travers tous les jours de nos vies. On va prier ensemble. Seigneur mon Dieu, je ne veux pas traiter avec légèreté les diverses épreuves auxquelles ton peuple ici à l'Église de l'Espoir est soumis, Seigneur. Chacun d'entre nous, une grande diversité d'épreuves sont là dans nos vies. Pour certains, ces épreuves durent des années. Pour certains, toute leur vie. Et Jacques vient, on pourrait croire avec arrogance, nous dire, regarde toutes ces épreuves, comme une source, un objet de joie complète. Oh Seigneur, que tu formes en nous cette sagesse qui nous amène à regarder au-delà de l'épreuve, au-delà de l'immédiat, au-delà de cette vie qui passe comme une herbe qui se dessèche, pour avoir la tête dans les nuages et regarder à toi, Seigneur Jésus, au jour où nous irons à ta rencontre. Sauvé par grâce, mais perfectionné, rendu mature par la puissance de ton Évangile et toutes ces épreuves que tu donnes dans nos vies. Seigneur, j'aimerais te prier pour celui qui dit, dans son cœur ce matin. Yannick, tu comprends rien. Celui qui a le cœur amer des épreuves qu'il traverse. Celui qui dit « t'es fou ». Un jour, tu souffriras autant que moi et tu comprendras. Je prie, Seigneur, pour cette personne qui a besoin que tu lui donnes cette sagesse d'en haut. Sans reproche, Seigneur, parce que tu es bon, parce que tu ne juges pas notre faiblesse, mais tu as compassion de nous. Tu sais de quoi nous sommes formés, Seigneur. Je te prie pour mon frère, ma sœur, qui traverse des épreuves avec amertume, avec de la rancœur, sans jamais trouver un endroit, un moment où elle arrive à se réjouir de ce que tu formes en elle, en lui, Seigneur. Conduis-nous dans plus de maturité, Seigneur, pour qu'on apprenne à se réjouir à travers les épreuves. Fais-nous grandir à travers cette lettre de Jacques, Seigneur, et que pour chacun d'entre nous qui sommes des grosses têtes de la Bible, des grands théologiens qui connaissons tout mieux que tout le monde, Seigneur, que tu nous apprennes à vivre notre foi au terre à terre, jour après jour, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen.